cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe le 11 mai 1992 à Saint-Jodard.
Je regarde d'abord quelques questions au niveau de l'éthique. L'adoration demande d'être reclus en Dieu, d'être seul avec lui. Comment expliquer en éthique religieuse la nécessité de l'amour d'amitié? Parce que Dieu ne fait pas nombre, Dieu n'est pas rival. Donc, l'amour, l'adoration développe en profondeur notre capacité d'aimer. Le premier amour, il est horizontal, si j'ose dire. C'est l'amour d'amitié. L'amour vertical se fait par l'adoration. L'adoration est cet amour foncier de la partie pour le tout, comme dit Thomas d'Aquin. On découvre qu'on est totalement dépendant de Dieu et on veut reconnaître cette dépendance aimante à l'égard de Dieu. Et on l'adore. Donc il y a dans l'adoration cette reconnaissance amoureuse de notre dépendance à l'égard de Dieu, que notre âme est créée directement par Dieu et que nous sommes directement reliés à lui. Donc ça creuse en notre volonté une capacité nouvelle d'aimer. Cette capacité nouvelle d'aimer ne supprime pas cette première capacité d'aimer le prochain. D'aimer le prochain, c'est-à-dire d'aimer celui que nous avons choisi, celui qui est sur notre route. De sorte qu'il est normal de regarder comment l'adoration qui creuse en nous un nouvel amour, un amour de dépendance à l'égard de Dieu, et une joie, cette dépendance, comme tout amour, est source de joie, de mettre en nous comme une sorte de joie de reconnaître que Dieu est notre Créateur. Cet amour d'adoration va pouvoir transformer, modifier l'amour d'amitié. Il ne le transforme pas spécifiquement, il le transforme dans son exercice pour faire que l'ami, comme il est lui-même une créature, ne peut plus être pour nous la fin ultime. Il est une fin propre, mais ce n'est pas une fin ultime, dernière. Donc, on ne relativise pas l'amour d'amitié. On lui donne une profondeur nouvelle. Mais dans l'ordre de l'exercice, on voit qu'il est et qu'il garde une finalité, mais pas une finalité ultime. Donc on distingue finalité propre et finalité ultime. Et cet amour d'amitié, justement, parce qu'il n'est une finalité propre, permet à l'homme de mieux comprendre la grandeur de l'adoration. Si donc l'ami a comme ami quelqu'un qui n'est pas du tout une âme religieuse, qui ne comprend pas du tout ce que c'est Dieu, si il est en opposition vis-à-vis de Dieu et donc vis-à-vis de l'adoration, cette découverte de l'adoration va mettre l'ami dans une situation où il sera obligé de dire à son ami: j'ai découvert quelque chose de plus grand et notre amitié ne peut plus demeurer, je crois, comme amitié. Si au contraire l'ami reste ouvert à ce mystère de l'adoration, cette adoration ne supprime rien du tout de l'amour d'amitié. Vous voyez, c'est en cela qu'il permet d'aller plus loin. Je crois qu'une âme vraiment tradition. Il touche ce qu'il y a de plus vulnérable en nous. Par l'adoration, ce qu'il y a de plus vulnérable en nous, c'est notre lien avec Dieu, Créateur. On ne peut pas être indifférent quand on adore Dieu. Et on les a tous, on comprend très bien ces situations-là. Alors, on peut être poli, on peut maintenir des relations amicales, mais l'aspect vraiment d'amitié, qui est d'aimer l'autre dans ce qu'il a de plus profond, se relativise énormément. Vous voyez, je crois que c'est le cas où l'adoration relativise l'amour d'amitié. Alors que normalement, l'adoration ne relativise pas l'amour d'amitié et permet au contraire à l'amour d'amitié d'aller plus loin. La consécration à Dieu peut-elle être déjà réalisée dans une éthique religieuse? Après avoir découvert l'existence de Dieu et l'adoration, je choisis Dieu comme l'absolu qui prend toute ma vie. Il est sûr qu'il y a des consécrations à Dieu. Ça existait dans l'Antiquité. Les Vestales. Consécration de certains, de certaines de la personne humaine à Dieu en raison d'adoration. Il peut même y avoir, vous voyez, certaines vies monastiques qui est à ce niveau-là. À Qumran. Là, je sais que c'est différent, puisque là, il y avait la foi. Mais une foi qui s'explicite dans l'adoration. Celle de l'Ancien Testament. Qui n'est pas encore une charité pleinement développée. Une foi qui s'explicite dans l'adoration. Alors qui peut permettre très bien une certaine vie religieuse. Non seulement une consécration personnelle et individuelle, celle-là c'est sûr. Si je découvre Dieu comme créateur, je peux me consacrer à lui. Puisqu'il est fin d'une manière absolue. Mais on peut aller plus loin. On peut même comprendre qu'il y a une certaine vie commune et un certain culte, certaines liturgies. Il y a une liturgie au niveau religieux. On le verra après ça. Donc ça devance, mais c'est bien. Y a-t-il un exercice de la miséricorde dans l'amitié humaine vécue dans la lumière d'adoration? Mais ça c'est plus délicat. Je le verrai aussi après, parce que c'est avec la justice qu'on verra ça. La transformation de la justice par l'adoration. C'est pas directement. L'amour d'amitié n'est pas source de miséricorde. C'est la charité divine qui est source de miséricorde. Type de l'éthique humaine fondamentale. tourner vers Dieu, ontologiquement parlant, comme dirait le Saint-Père. L'homme est ordonné vers Dieu, mais il n'est ordonné vers Dieu que grâce aux traditions religieuses, que grâce à la découverte de l'existence de Dieu par la métaphysique. Or, il n'y a pas un lien de nécessité entre l'amitié humaine et la métaphysique. Je ne peux pas dire à mon ami, tu ne seras mon ami que si tu fais de la métaphysique. Je ne peux pas dire ça. Je peux dire à mon ami, qui est en état de révolte à l'égard de l'existence de Dieu, fais de la métaphysique pour supprimer ta révolte. Alors, si tu veux être encore mon ami, fais de la métaphysique pour supprimer ton état de révolte contre Dieu. Ça, je peux le dire. Et à ce moment-là, vous faites une épreuve pour voir si vraiment il est votre ami. S'il est vraiment votre ami, il fera tout ce que vous direz pour, justement, maintenir cette amitié. S'il n'est pas vraiment mon ami, je n'ai pas le temps. Il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes à voir parce que ça met l'ami en état de rêve, en état de, voyez, de situation limite, en quelque sorte. Jusqu'où va cette amitié? Il faut quelquefois sonder le cœur et les reins de l'ami, en respectant toujours que Dieu seul sonde les reins et les cœurs. Et dans l'art de l'amitié, j'ai le droit quand même de savoir les intentions d'ami. Autrement, il n'y a plus d'amitié. Il n'y a plus de secret. Mais réfléchissez là-dessus. On verra ces problèmes-là après. Justement, après. Lors du dernier cours, vous avez dit que chaque âme est créée directement par Dieu. Oui, je le maintiens. Puisque Dieu ne crée pas la personne, mais l'être de la personne. Quel regard le philosophe a-t-il en éthique religieuse sur la personne? Pourriez-vous préciser cette dernière affirmation? Je comprends très bien. Nous le verrons l'année prochaine. Si Dieu le permet. Parce que dire ça en 2 minutes, je peux le dire en 2 minutes si vous voulez. Et vous verrez ça exposé d'une façon plus développée l'année prochaine. La personne humaine, saint Thomas dit toujours, est un tout. La personne humaine est un pos, une manière d'exister. C'est pas un principe. Il n'y a pas de nouveau principe pour la personne. C'est un pose, c'est une manière d'être. La manière d'être de la vache n'est pas une personne. La manière d'être, d'exister d'un homme est une personne. Une personne plus ou moins parfaite. Et c'est vrai, la personne est plus ou moins parfaite. Quand vous regardez un petit enfant dans son berceau, ce qu'il est gentil, vous ne dites pas « Oh, quelle belle personne !» Non. Pourquoi? Alors que tout, au point de vue des principes métaphysiques, est présent. Cet enfant existe. Il a une substance, une âme. N'a pas encore atteint la vérité. Il ne sait pas très bien encore ce que c'est qu'aimer. Sa personne humaine implique l'exercice de l'intelligence et de la volonté. Une personne demande d'être finalisée. Elle n'est personne que si elle est finalisée. C'est pour ça que, au sens strict, ça relève de la vie de l'esprit. Une personne implique la vie de l'esprit et une vie qui est finalisée. Une vraie personne est finalisée. Quelqu'un qui n'a aucune fin dans sa vie est errant et il n'a plus rien de personnel. Il n'est plus qu'un individu. La personne implique une conscience de notre capacité d'organiser tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous sommes capables de faire. Donc, vous voyez, c'est dans ce sens-là que je dis que Dieu crée l'âme et que Dieu ne crée pas la personne, mais l'être de la personne. L'être de la personne, parce que la personne implique la substance et que la substance implique l'essai. C'est l'acte de la substance. Et ceci est créé par Dieu. Alors nous allons continuer après ça, nous allons continuer maintenant à comprendre ce que l'adoration transforme dans notre vie. La dernière fois, nous avions vu comment l'adoration pouvait modifier l'amour d'amitié. Je dis bien modifier l'exercice de l'amour d'amitié. À la fois le rendre plus intense et plus discret. Grâce à l'adoration, j'ai beaucoup plus de respect vis-à-vis de l'ami. Parce que je sais que son âme est créée par Dieu et qu'il a donc une finalité propre qui ne me regarde pas. Même en tant qu'ami. Vous voyez, vouloir exiger dans l'amour d'amitié ce qui n'est pas de l'ordre de l'amour d'amitié brise l'amour d'amitié. Parce que c'est tyrannique. Vous êtes très lucide si on veut vraiment progresser dans l'amour d'amitié. Autrement, on tyrannise. Et qu'est-ce qu'il y a quand on tyrannise? Il y a tôt ou tard une réaction violente de renvoyer l'ami. Vous voyez, qui est un amour captatif, qui nous plonge dans un cocon et qui nous empêche d'être nous-mêmes. Une mère trop captative fait que tôt ou tard, il y a des réactions violentes de l'enfant pour retrouver, de l'adolescent, pour retrouver sa liberté. Ça se voit tout le temps, ça. Mais une famille trop fermée implique ça. C'est la même chose dans l'amour d'amitié. Et l'adoration est un des facteurs les plus forts d'exigence de liberté. Par l'adoration, je suis libre à l'égard de toutes les personnes humaines. Et je ne dépends que de Dieu. Et donc, je relativise. Vous voyez, je parlais de l'ouverture du cœur. Je relativise l'ouverture du cœur. Parce que je sais que l'ouverture du cœur ne se fait qu'à l'égard de Dieu. Le Dieu créateur. Et ceci est vrai dans l'ordre de l'adoration. L'adoration, autrement dit, augmente mon autonomie, augmente le sens que j'ai de la transcendance de chaque personne humaine. Et que l'amour d'amitié ne peut pas relativiser cette transcendance. Et que l'amour d'amitié doit respecter dans l'ami son lien unique avec Dieu qui existe dès qu'il y a adoration. Chacun qui adore est lié à Dieu d'une façon unique et personnelle. Et un ami qui voudrait pénétrer dans ce lien, alors que l'ami ne le veut pas, il a un droit à ça. Il peut très bien en parler à son ami, mais il le fait librement. On peut parler de toi, un ami, mais librement. Si on dit, tu es mon ami, donc tu dois tout me dire. Ah non. Tu es mon ami, très bien. respecter ce lien fondamental à l'égard de Dieu. Des quantités d'amitié sont brisées à cause de ça. Parce qu'on n'a pas respecté ce lien de transcendance à l'égard de Dieu. Vous voyez, c'est ça que j'appelle que l'adoration donne un sens de respect beaucoup plus profond à l'égard de l'autre. Et ce respect, c'est qu'il y a une relation radicale de chaque homme par son âme à l'égard de Dieu. Une relation qui est unique. Il y a un secret. Chaque âme créée par Dieu un secret avec Dieu, qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas beaucoup. Tout dépend de la qualité de son âme religieuse. Tout dépend de la qualité de son adoration. Mais l'adoration met un secret entre notre âme et Dieu, et le Dieu créateur. Un secret que personne n'a le droit de violer. Et l'amour d'amitié ne donne aucun droit là-dessus. Mais puisqu'on a un sens beaucoup plus profond du respect de l'autre, puisqu'il son âme dépend directement de Dieu. C'est important à souligner ça. Et c'est important de le dire. Quand on voit des personnes qui n'ont pas la foi, qui sont uniquement des êtres humains qui sont profonds. Il faut qu'ils arrivent à découvrir qu'il y a un lien secret avec Dieu. Alors, ce lien secret augmente avec Jésus et dans la charité surnaturelle. C'est bien évident. Un ami n'a jamais le droit d'exiger de son ami une ouverture de cœur. Absolue. Jamais. Et quand il l'exige, il est lui-même celui qui tue l'amour d'amitié. Quelquefois, il n'a pas conscience. Mais ça, il y a des bourreaux qui n'ont pas conscience. Peut-être des bourreaux. Ils ont tué l'amour d'amitié. Vous voyez ? Parce que chaque fois qu'il y a un nouvel amour, il y a une vulnérabilité nouvelle. Et l'amour religieux est plus vulnérable que l'amour d'amitié. C'est plus profond, c'est plus radical. Et donc l'amour d'amitié doit respecter cette vulnérabilité. Et a fortiori doit respecter les liens de charité divine avec le Christ. Et les liens de charité divine avec le Christ et avec celui que nous considérons comme notre Père spirituel. L'amour d'amitié humain, autrement dit, n'a jamais le droit de demander à son ami, « Tu vas te confesser maintenant, hein? Tu vas tout me dire. » Jamais. Pas le droit d'exiger de dire ses fautes du passé. Jamais. On a le droit. Parce que c'est par rapport à Dieu, ça. C'est une relation vis-à-vis de Dieu. Alors, il faut être très net sur ce point. Si on veut respecter l'ami, et on est très, j'allais dire, une âme vraiment religieuse est très sensible à cela. Elle sentira tout de suite s'il y a de la part de l'ami quelque chose qui n'est pas au point. Oui. Alors qu'on sera très respectueux et on sera très reconnaissant de voir que l'ami respecte cela. Alors évidemment, on peut en parler, c'est sûr, l'ami peut le dire, mais c'est par surabondance. J'ai une totale confiance en toi, je peux te dire ça. C'est plus un droit, c'est pas le jus amicitié, c'est pas le droit de l'ami. C'est ça que le philosophe doit saisir en éthique. Parce que si vous n'aviez pas une éthique philosophique, Vous ne pourriez pas dire ça. Si vous aviez une éthique d'ordre purement fémologique, vous ne pourriez pas le dire. Et c'est le défaut actuel. Parce qu'on est sous la fémologie. Alors on croit que la détermination vient de l'exercice. Et on ne comprend pas que les déterminations sont antérieures à l'exercice. Alors ça, ça me semble capital. Et c'est vrai dans l'ordre du mariage. Parce que le mariage est un amour d'amitié. Et c'est souvent catastrophique quand de fait on ne le respecte pas. Et ça va très vite, vous savez. Je me souviens avoir lutté, je ne dis pas avec qui, mais avec quelqu'un qui s'occupe beaucoup de cette question de mariage. Pour l'avoir fait comprendre, mais non, faites attention. Le mariage ne donne pas un droit total sur la personne de l'autre. Très souvent, ça arrive, des époux très zélés, très pieux, qui croient qu'ils sont le prêtre de leur épouse. Parce que de fait, ils l'aiment beaucoup et voudraient pénétrer dans tout son âme et diriger. C'est très très important. Et c'est vrai, dès le point de vue religieux, il y a un enracinement radical de l'autonomie religieuse. Mais c'est là où il faudrait traiter la question de la liberté religieuse qui avait coulé dans le monde ancre. La liberté religieuse, elle est là parce qu'au fond, du fait même que mon âme est créée directement par Dieu, je suis en relation directe avec Dieu par l'adoration. Et je suis reclus en Dieu par l'adoration. Et là, c'est un droit divin, un droit sacré. Et on peut très bien comprendre que Dieu nous demande dans ce domaine-là d'être extrêmement strict. On fera peut-être souffrir l'ami, c'est sûr, mais on doit être vrai en face de Dieu. Et Dieu peut très bien nous le demander. Et c'est là où on doit avoir ce respect, vous voyez, c'est là, liberté religieuse en sens fort. On est libre à l'égard de tous les amis. On est seul avec Dieu. Et cette solitude avec Dieu, elle est vécue dans l'adoration. C'est une solitude d'amour profonde. C'est une solitude qui va très loin, puisque c'est radical. C'est tout mon être que j'offre à Dieu dans l'adoration. C'est tout mon être qui est présent à Dieu. Et je me soumets entièrement et totalement à ce bon plaisir de Dieu sur moi, du bon plaisir de Dieu en tant que créateur. Et alors, puisque je ne dépends que de Dieu, Dieu, si je reconnais cette dépendance, Dieu me libère de toute autre dépendance. Puisque grâce à Dieu, tout est relativisé. Et par Dieu, tout est relativisé. Il faut comprendre, voyez, cette noblesse que nous donne l'adoration. On ne dépend que de Dieu, radicalement. Jusque dans l'ordre de l'amour d'amitié. Et alors c'est pour ça que certains qui auraient une conception fausse de l'amour d'amitié imaginative, ils diraient l'adoration alors supprime l'amour d'amitié. Non. L'adoration exige d'avoir une vision plus nette sur ce que représente l'amour d'amitié et ce que représente l'adoration. Mais il n'y a pas brisure. Il y a brisure si l'autre exagère. Alors c'est une libération. Ce qu'il faut être libéré de ces tyrans. Il peut y avoir des amours d'amitié qui se transforment en tyrannie. Vous voyez, c'est ça, une espèce d'amour captatif qui peut aller très loin. Alors à la place de libérer l'amour d'amitié, métier doit libérer. Chaque fois que vous touchez une finalité, vous vous libérez. Toujours. Puisque vous relativisez tout le reste. Donc, vous êtes bien plus libre. L'amour d'amitié, le véritable amour d'amitié, me donne une nouvelle liberté. Et l'adoration me donne une nouvelle liberté. Qui n'est pas la même, qui est autre. Et la charité divine me donne une nouvelle liberté. Vous voyez, il y a trois niveaux de liberté. C'est normal, les trois niveaux éthiques. Ce qui est très normal, puisque au fond, la liberté est pleinement une conséquence de l'amour. S'il y a trois amours spécifiquement distincts, l'amour à l'égard de l'ami, l'amour à l'égard de Dieu, l'amour à l'égard de Jésus. S'il y a trois types d'amour distincts, il y aura donc trois libertés distinctes que je peux expérimenter et que je dois même expérimenter si je suis parfaitement conscient de ce que je suis. Et chaque fois ça va plus loin, et chaque fois c'est plus profond. Il faut maintenant regarder ce dernier point très important. Comment l'adoration va-t-elle modifier la justice, la vertu de justice? La vertu de justice, nous l'avions vu précédemment par rapport à la morale fondamentale, à l'éthique. l'amitié est gardienne de la justice. Puisque l'amitié va plus loin. La justice n'atteint pas une finalité propre de l'homme. Elle n'atteint qu'un moyen. Payer ses dettes. Et quand vous n'avez plus de dettes à payer, respectez ceux qui sont autour de vous. Ça, il y aura toujours un exercice de justice. Et puis, quand on fait partie d'une communauté, payez les impôts. Justice législative, législative. Légale. Et puis tout acte de justice. Alors, est-ce que l'adoration va modifier la justice? Alors, on peut dire exactement comme on l'a dit précédemment, le point de vue de la justice n'est pas déterminé par le point de vue religieux. Mais j'insiste beaucoup là-dessus. Il faudra que je retrouve ce livre pour vous le donner, parce que c'est intéressant à lire, justement. Comme quoi, il ne peut pas y avoir d'éthique en dehors de l'éthique religieuse. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça de façon absolue. Dans l'exercice, je le comprends. Mais pas au plan philosophique. Au point de vue pratique, je peux le dire, ça. C'est très difficile pour un homme de rester moral sans l'attitude religieuse. Ça, c'est très, très vrai. Mais c'est pas parce que c'est très difficile de rester moral sans le point de vue religieux que l'éthique humaine n'existe pas. Proprement humaine. Parce que la nature humaine existe avant que j'exerce ma attitude religieuse. Et donc il y a l'acquisition des vertus cardinales qui se font au niveau de l'éthique fondamentale. Et parmi ces vertus cardinales, il y a le point de vue de la justice. Vous avez tapé. Alors, je ne sais pas s'il y a un changement d'heure ou pas. Qu'est-ce qui s'occupe de l'heure, là, ici? Ah, oui.